Europe 1, il est 8h.
Moi je sais qui est tombé pour la sécurité des Maliennes et des Maliens, des Nigériens, des Burkinabés, des soldats français.
Emmanuel Macron s'indigne du procès d'ingérence fait à la France au Sahel. Le président rappelle fermement notre mission dans la lutte contre le terrorisme islamiste et annonce 220 militaires supplémentaires.
Le premier djihadiste français condamné à son retour de Syrie est sorti hier de la prison de Condé-sur-Sarthe dans l'Orne. Une libération qui inquiète. Nous serons en ligne avec le spécialiste Jean-Charles Brizard.
De meilleures conditions de travail, un salaire plus élevé. La Belgique attire de plus en plus de personnel soignant français.
Mes stages en France m'ont confirmé de vouloir aller travailler en Belgique parce qu'ils sont plus conscient du travail qu'effectuent les infirmières en Belgique qu'en France.
Les syndicats contestataires appellent à 3 jours de mobilisation et d'action contre la réforme des retraites, blocage de ports et raffineries et coupure éventuelle d'électricité.
Dans un contexte de baisse de la mobilisation, en ce 41e jour de grève dans les transports.
Elle préfère se concentrer sur son projet plutôt que de parler de son bilan. Anne Hidalgo a tenu meeting hier à Paris, un meeting tout vert.
Nous irons encore plus loin. En faisant de Paris cette ville 100% vélo, nous réduirons encore la place de la voiture. Et oui, il n'y aura pas de pause.
Votre invité politique à ce sujet, Sonia.
Candidate aussi à la mairie de Paris, Rachida Dati, l'ancienne garde des Sceaux, veut déjouer les pronostics. Mais la droite est-elle suffisamment unie pour y arriver? Sa réponse tout à l'heure.
Europe 1, 8h01. Très bon réveil à toutes et à tous.
Europe 1, écoutez le monde changer.
Mais d'abord un mot. Voilà près de 5 mois que vous écoutez Le Monde Changer sur Europe 1. Et ce matin, Médiamétrie publie de nouveaux résultats d'audience pour les radios. C'est la meilleure progression d'Europe 1 depuis 10 ans. Vous êtes 3 241 000 auditeurs à nous choisir quotidiennement. Et sur la matinale que j'ai l'immense honneur de présenter, c'est la plus forte progression en une vague de l'histoire d'Europe 1. Alors, sans vous assommer de chiffres ce matin, quelques toutes petites choses. Des petites choses, mais qui comptent. D'abord l'esprit, ici, vous dire, comme dans la rédaction, et pas seulement dans la rédaction, on est heureux, simplement, et on voulait vous le faire savoir. Nous travaillons très dur sur tous les programmes de la journée, et c'est important que ça se ressente dans ces résultats. Je veux aussi saluer le travail accompli par tous ceux qui m'entourent le matin. On va continuer à travailler, c'est la seule règle. Et puis enfin, ce que je veux dire, c'est vous parler d'Europe 1 et de vous. Ce travail, on le réalise quotidiennement pour vous, parce que vous avez un lien particulier avec cette radio. Alors ce matin, pour ceux qui ont toujours été là d'abord, et puis pour ceux qui viennent de nous rejoindre, je voudrais simplement dire merci. Merci de votre fidélité, de votre soutien, et n'hésitez surtout pas à dire autour de vous qu'il se passe des choses sur Europe 1 en 2020. On va continuer sans relâche à raconter, expliquer, analyser ce monde qui change.
Je m'associe évidemment, Mathieu, à votre merci. C'est un formidable encouragement à poursuivre sur la même route, celle du travail et des efforts, le tout dans le respect de ce qu'a toujours été Europe 1, de ses valeurs. Écouter le monde changer sans idéologie, mais avec pragmatisme. Merci donc à tous. Et justement, c'est ce qu'on essaye de faire avec le journal du 8h. Et à la une, la France qui renforce sa présence militaire au Sahel. Emmanuel Macron a annoncé l'envoi de 220 militaires supplémentaires. 4500 soldats français luttent déjà contre les djihadistes dans cette région d'Afrique.
L'annonce de ce renfort a été faite hier lors du G5 Sahel à Pau. On vous en a parlé. Réunion avec les 5 grands chefs d'État de la région.
Oui, lors de cette réunion, Emmanuel Macron s'est élevé contre le procès d'ingérence fait à la France dans la région. Adrien Beck.
Moi, je sais qui est tombé pour la sécurité des Maliennes et des Maliens, des Nigériens, des Burkinabés, des soldats français.
Une mise au point très claire à la même table que ses homologues maliens, nigériens, burkinabés. Emmanuel Macron rejette les accusations d'ingérence française agitées par une partie de la classe politique de ces pays. La France qui intervient au Sahel, disent certains, une forme de néocolonialisme, voire une alliance objective avec les djihadistes.
Les discours que j'ai pu entendre ces dernières semaines sont indignes. Ils sont indignes parce qu'ils servent aussi d'autres intérêts. Soit ils servent les intérêts des groupements terroristes qui voudraient voir plus puissants dans votre pays, soit ils servent les intérêts d'autres puissances étrangères qui veulent simplement voir les Européens plus loin parce qu'ils ont leur propre agenda, un agenda de mercenaires.
Si ses homologues sont restés très silencieux sur le sujet, une réponse se trouve tout de même dans la déclaration finale du sommet. Le G5 Sahel dit vouloir poursuivre l'engagement militaire de la France au Sahel. La coopération militaire sera renforcée avec notamment l'envoi de 220 militaires français supplémentaires dans la zone. Pau, Adrien Beck, Europe 1.
Le premier revenant, on dit comme ça, revenant français de Daesh vient de sortir de prison, remis en liberté hier après 7 ans d'incarcération. Flavien Moreau, c'est son nom, un Nantais de 33 ans, avait été jugé à son retour de Syrie. Une 40aine d'autres revenants condamnés pour des faits liés au terrorisme islamiste vont sortir des prisons françaises en 2020.
Oui, de quoi renforcer les craintes d'un pays encore meurtri, bien sûr, par les attentats djihadistes des dernières années. Bonjour Jean-Charles Brizard.
Bonjour.
Vous êtes le président du Centre d'analyse du terrorisme. Ce qui est particulièrement inquiétant avec la libération de ce revenant, c'est la suite. Quelle surveillance pour ces individus condamnés pour djihadisme ?
Oui, alors en l'occurrence, on a affaire à un individu qui, lors de sa détention, a fait l'objet de nombreux incidents. Hein. Il y a eu des agressions, des outrages, des dégradations, des armes artisanales ont même été retrouvées dans sa cellule. Il avait déjà, lui, un casier judiciaire extrêmement volumineux avant sa condamnation, près d'une quinzaine de condamnations hein, pour vol et port d'armes. L'évaluation de sa dangerosité en prison a été faite, évidemment, et donc des mesures de surveillance judiciaire ont été mises en place après sa sortie, après avoir pu expurger sa peine. Ça veut dire que durant quasiment un an, aujourd'hui, il va devoir pointer régulièrement auprès du juge d'application des peines. Et en plus de ces mesures de surveillance judiciaire, il y aura des mesures de surveillance administrative. Depuis deux ans maintenant, les pouvoirs publics ont mis en place un dispositif de surveillance post-carcérale qui est du ressort des services de renseignement. Et c'est là l'essentiel. Les services de renseignement vont devoir suivre cet individu.
Mais Jean-Charles Brisard, vous dites à la fois des choses, pardonnez-moi, qui sont franchement inquiétantes et des choses un peu plus rassurantes. À vos yeux, est-ce que du côté politique, du côté de l'exécutif, on a assez préparé ces sorties ?
On a préparé ces sorties puisque depuis juillet 2018, je le disais, il y a un dispositif qui a été mis en place, qui est coordonné par l'UCLAT. Donc aujourd'hui, l'UCLAT, c'est la DGSI, et qui vise précisément à suivre, en fonction de leur dangerosité, ces individus qui ont purgé leur peine, qui sortent de prison, puisqu'encore une fois, ils ont été condamnés, on ne peut pas les garder plus longtemps en prison. Ils ont légalement purgé leur peine. Et c'est la raison pour laquelle tout l'enjeu réside dans notre capacité à véritablement suivre ces individus pour s'assurer qu'ils ne... Repense pas dans des faits de terrorisme.
Jean-Charles Brisard, merci à vous, président du Centre d'analyse du terrorisme et mon invité après ce journal, Rachida Dati, ex-garde des Sceaux, réagira à cette actualité. Le gouvernement a-t-il suffisamment anticipé et préparé la sortie de prison de ses revenants ? Réponse dans quelques minutes.
L'actualité sociale, à présent, ils étaient à peine 4% de grévistes hier à la SNCF. La grève qui faiblit peu à peu, mais certains syndicats restent déterminés et réclament le retrait total, hein, du projet de loi sur les retraites.
Cela en appelle à 3 jours de mobilisation à partir d'aujourd'hui. Alors quels sont ces secteurs qui ne baissent pas pavillon et quelles actions envisagent les salariés grévistes ? Carole Ferry.
La CGT des dockers appelle à une opération port mort, 72 heures de blocage pour paralyser le trafic de marchandises au départ et à l'arrivée des ports français. Des actions sont également prévues dans le secteur de l'énergie, occupation de sites, éventuellement coupures ciblées d'électricité. La CGT Chimie reconduit de son côté le blocage des raffineries. Les 4 jours de grève la semaine dernière ont eu un impact très limité. Pour le délégué central de la CGT chez Total, Thierry Defresne, l'objectif n'est plus de vider les stations essence, mais de pénaliser l'ensemble des entreprises avec la généralisation du mouvement.
Le but maintenant étant de mettre un coup de canif dans le portefeuille des patrons hein, qui, eux, réclament cette réforme des retraites. Donc pour que ce soit eux qui finalement arrivent voir le gouvernement en leur disant « retirez cette réforme puisque ça va trop loin et nous, nos pertes économiques sont trop fortes ». Donc on nous pousse à la radicalisation et la radicalisation, c'est l'asphyxie du pays en termes d'économie.
Le secteur du commerce menace ainsi de bloquer des entreprises de restauration collective ainsi que des sites de logistique dans la grande distribution. Demain, les remontées mécaniques pourraient également se mettre en grève dans les stations de ski.
Carole Ferry du service économie d'Europe 1 et j'ajoute que des rassemblements et des défilés sont prévus aujourd'hui à Grenoble, Paris, Marseille ou encore à Lyon.
Le gouvernement tente d'éteindre tous les foyers de contestation rencontrés hier avec les avocats, les enseignants aussi. Et puis il y a le malaise grandissant dans l'hôpital public. Nous avons pris la décision inédite et difficile de démissionner collectivement. Ils sont plus de 1200 praticiens, chefs de service à vouloir quitter leurs fonctions administratives et d'encadrement.
On en avait parlé dès la semaine dernière sur Europe 1, ils en ont tout simplement marre de chercher des lits pour leurs patients ou des remplaçants dans leur service. Alors pour certains, une solution radicale, quitter la France. Ainsi, dans la région lilloise, des infirmières fuient la grande misère de l'hôpital public pour aller travailler en Belgique.
Oui, et pour y trouver des salaires plus attractifs et surtout des conditions de travail dignes, tout simplement. C'est le cas à Mouscron, en région wallonne. Reportage de Lionel Gougelot.
Sur ma fiche de salaire, oui, je le vois, je gagne plus que mes collègues de promo qui travaillent en France.
Diplôme d'infirmière en poche, Naomi n'a pas hésité longtemps pour signer un premier CDD à 2200 euros bruts par mois à l'hôpital de Mouscron. Des salaires supérieurs en moyenne de 40% par rapport à la la France et surtout des conditions de travail épanouissantes.
Mes stages en France m'ont confirmé de vouloir aller travailler en Belgique parce qu'ils sont plus conscients du travail qu'effectuent les infirmières en Belgique qu'en France. Je regrette pas mon choix car ici on m'a écouté sur mon vœu de vouloir aller au service des urgences. Qu'en France c'était difficile de pouvoir intégrer un service dans lequel je me sentais à l'aise. Du coup non, je regrette pas du tout.
Et à Moucron, près de 20% du personnel soignant est français. Un exode qui participe de la pénurie de personnel dans les hôpitaux français, constate Éric Goubet, délégué CGT, cadre de santé à l'hôpital de Roubaix.
On a aussi cette génération zapping qui va venir un mois, deux mois et qui va partir parce qu'ils se retrouvent dans des services compliqués sans forcément être accompagnés comme ils devraient l'être. Donc tout ça, c'est des éléments qui favorisent la pénurie au niveau du service public. Et si on manque d'infirmiers, on manque d'aides-soignants, il y a des services qu'on ne pourra pas ouvrir, ce qui est déjà arrivé, on va se retrouver avec des personnes qui vont avoir du mal à se faire soigner.
D'ailleurs, à l'hôpital de Roubaix, l'ouverture de l'unité pour les urgences hivernales a dû être retardée. Impossible de pourvoir les 6 postes d'infirmiers nécessaires. Roubaix, Lionel Gougelot, Europe 1.
Vous restez avec nous sur Europe 1 dans un instant. La reine d'Angleterre qui se met d'accord avec Meghan et Harry. Et puis le premier meeting d'Anne Hidalgo, la maire de Paris, candidate à sa réélection. Son projet, mais aussi son bilan. A tout de suite.
Europe 1, il est 8h13, la suite du journal. Mathieu Béliard, Sonia Mabrouk.
Elle est officiellement candidate à sa réélection. Anne Hidalgo a tenu son premier meeting hier à Paris. L'actuelle maire de la capitale veut mettre en avant son projet, mais ses adversaires promettent qu'elle n'échappera pas à son bilan. Insécurité, saleté, embouteillage, beaucoup dénoncent un bilan boulé.
En attendant, Anne Hidalgo fait campagne. Hier, sur une péniche, la maire de Paris a fait de l'écologie le socle de son projet. Claudia Bertram.
Comment veut-on vivre à Paris dans 5 ans? Dans 10 ans, notre réponse, elle est d'abord écologique.
Anne Hidalgo repeint tout en vert son programme, ses affiches de campagne. Objectif, contrer les écologistes crédités dans les sondages de plus de 20% dans les grandes villes, sauf à Paris. Pour la maire sortante, c'est grâce à son bilan et elle veut donc poursuivre dans cette voie.
Nous irons encore plus loin. En faisant de Paris cette ville 100% vélo, nous réduirons donc encore la place de la voiture. Et oui, il n'y aura pas de pause pour avoir un air plus pur.
Piétonnisation du centre de Paris, forêts urbaines, fin du diesel en 2024. Anne Hidalgo égrène ses propositions vertes. Pour ses partisans, pas besoin de voter Europe Écologie.
Il n'y a pas que parce qu'on s'appelle Europe Écologie Les Verts aujourd'hui qu'on peut parler écologie.
Le projet d'Anne Hidalgo, c'est la continuité du précédent mandat.
Ce qui manque chez Les Verts, c'est quand même la dimension sociale.
Si Anne Hidalgo affronte bien le candidat vert David Béliard au premier tour, dans le camp de la maire sortante, on espère bien une alliance au second tour, comme c'est le cas depuis 2001.
Claudia Bertram du service politique d'Europe 1.
La reine Elisabeth II approuve la décision de Harry et Meghan de se mettre en retrait de la famille royale britannique. C'est la conclusion du communiqué transmis hier par le palais de Buckingham.
Le couple vivra donc au Canada et au Royaume-Uni durant une période de transition. Bonjour Vincent Hervouet.
Bonjour.
Une décision et un condensé de diplomatie de la part de Queen Elisabeth.
Alors la règle d'or de la politesse, c'est de ne s'étonner de rien et quand un mystère vous dépasse, feindre d'en être l'organisateur, eh bien c'est le béaba de la politique. Elisabeth II est championne du monde dans les deux disciplines. Ça fait 93 ans qu'elle s'entraîne. Son petit-fils la met devant le fait accompli. Il la défie sur Instagram. Eh bien, la reine a répondu hier qu'elle le soutenait pleinement, qu'elle soutenait le jeune couple, diplomate de tous les pays, prenez-en de la graine. Alors, ce n'est pas une réunion de famille qui s'est tenue hier à Norfolk, c'était une réunion de crise, et le conseil d'administration de la firme Windsor a gagné du temps. Harry et Meghan peuvent aller au diable, mais à pas lent, c'est ça une période de transition.
La reine insiste sur la volonté de ses petits-enfants de ne plus dépendre des fonds publics dans leur nouvelle vie.
Alors c'est une réponse habile aux tabloïds en fureur qui dénoncent les enfants gâtés, les imposteurs, les rapaces qui veulent profiter des privilèges de leur rang tout en refusant les devoirs de la charge. Elisabeth II dit que l'amour a un prix et tout le monde applaudit. Inutile de préciser que le couple a de la fortune, un carnet d'adresses mirobolant et que la vie bourgeoise dont ils veulent jouir, ce n'est pas une chaumière et deux cœurs, mais celle de parasites de luxe qui font fructifier leur notoriété planétaire. Le paradoxe, c'est que les Britanniques ont voté le Brexit pour restaurer leurs frontières, pour sauver leurs traditions, pour retrouver leur identité. C'est exactement, c'est pile le contraire de ce que font Harry et Meghan.
Le regard international de Vincent Hervouet, c'est tous les jours dans le journal de 8h.
Il est 8h16. Vous êtes sur Europe 1, votre invité politique, Sonia.
Rachida Dati, ancienne garde des Sceaux, candidate à la mairie de Paris, adversaire d'Anne Hidalgo. Et pourtant, certains les voient en alliés de circonstances. Vrai, faux? Bonjour Rachida Dati.
Bonjour, ça commence bien.
A tout de suite sur Europe 1.